Oui, celle que tu as eue hier dans la rue, la question.
Oui, alors, la souffrance est nécessaire parce que tout est libre dans la nature. On a le soleil, on a la lune, on a le blanc, le noir, on a la chaleur, la profondeur. Donc il faut la souffrance pour avoir le bonheur.
Donc, je reformule la question. La souffrance est nécessaire parce que il y a dans la nature le soleil et la lune. Il y a le haut et le bas. Bref, le tout et son contraire existent. Donc, si il y a le bien, il doit nécessairement avoir le mal. Tout s'équilibre. D'accord. Est-ce que... Ah oui, tu veux qu'on le fasse comme ça ? Ok. Alors, si je reformule ta remarque, il doit nécessairement exister quelque chose qui est opposé au bien pour que le bien existe. Le bien ne peut pas exister sans le mal. Parce que comme il y a la lune, il y a le soleil. D'accord. Tu as raison de dire qu'il y a la lune et le soleil. Le haut et le bas. Mais comment, mais là où je ne te rejoins pas, c'est que quelque chose n'a pas besoin de son opposé pour exister, nécessairement. Je m'explique. Si l'homme... Non, c'est fou.
Non, mais c'est vrai.
En fait, non, mais les liens causaux, en fait, c'est la question de la causalité. Les liens causaux entre en fait, c'est entre une chose et son contraire, entre le positif, le plus et le moins. Ontologique. Alors, vas-y. Non, mais je pense que dans la remarque de la personne, il y a en termes de métaphysique, le soleil et la lune et tout ça, c'est complètement bancal, ça n'a rien à voir. Mais le bien et le mal, il y a c'est la vision un peu dualiste entre le bien et le mal. Tout à l'heure, on parlait de cette question de rouille. S'il y a un dualisme, il y a complémentarité, et s'il y a complémentarité, tu peux inverser ou compenser. Je m'explique. Si tu me voles, tu fais quelque chose de mal, derrière, tu peux me rembourser. Tu as compensé ton mal par ton bien. On est sur un même axe. D'accord ? Si tu commets un adultère, comment tu le rembourses ? Un transfert d'énergie.
Non,
il y a une bêtise.
En fait, j'ai sorti cet argument à quelqu'un qui m'avait donné une objection dans la tête, et je parlais d'adultère. Il y avait sa femme à côté. Hein. Je lui ai dit, si tu trompes ta femme, est-ce que c'est bien ? Comment tu le rembourses? Il m'a répondu, si je leur donne de l'énergie en retour, ça se passe bien. Et sa femme, elle est là, elle fait, ouais. Franchement, non, ce que tu veux. Non, mais je pense que le point que tu as par où il allait commencer est le point essentiel. Une chose n'a pas besoin de se reposer pour exister. Il faut trouver plein d'exemples dans la nature, il y en a plusieurs, une chose peut se reposer pour exister. Mais déjà, dès le départ, tu as la notion d'opposé. La notion d'opposé, c'est quoi un opposé ? Pourquoi la lune serait l'opposé du soleil ? C'est faux, elle est là pour faire soleil. C'est faux. Elle est là pour faire soleil.
Puis le soleil ne se lève pas.
C'est... Oui. Le choix, voilà.
En fait, ontologiquement, on peut dire que le mal, il y a deux façons de formuler. Il y en a qui formulent en disant que le mal est une absence de bien, et d'autres qui peuvent formuler que le mal, c'est un bien qui a été altéré, qui a été détourné. Il n'existe pas en soi. C'est que tu prends quelque chose de bien et tu le transformes pour en faire quelque chose de laid et de mal. Et je crois que bibliquement, c'est quelque chose de fort.
Ce n'est pas, c'est à la fin de deuxième édition que tout à l'heure, ce n'est pas une chose créée.
C'est une chose altérée.
Une chose altérée ou une chose qui est là parce que la chose qui revient n'est plus là.
La notion de bien, elle n'existe pas. Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir quelque chose de bien si on ne sait pas de mal? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un amour si on ne connaît pas de la relation de haine?
Oui. Oui. Tu as besoin qu'on te déteste pour que le jour où tu rencontres l'amour, tu saches que c'est l'amour. Et tu as besoin d'aller lécher la cuvette des cabinets pour savoir que ça va sincèrement. Non, mais on est dans la question de l'expérience. On ne croit plus à une vérité transcendante, on pense à l'immanence. Mais qu'est-ce que ça ne tienne? Vas-y, teste. Hein. T'as besoin que je te mette une claque pour savoir qu'une caresse fait du bien. T'as besoin de voir la différence, vraiment? Bon, merci, tu me rassures, parce que sinon ça fait un petit problème.
La notion de la moralité, on va en parler un peu plus demain avec Alex, et puis on aura des questions et réponses là-dessus, mais sachez bien que la moralité, vous pouvez très largement démontrer qu'elle est universelle, premièrement, que deuxièmement, en démontrant que la moralité est universelle, vous pouvez très facilement amener les auditeurs, ceux qui vous écoutent, à comprendre que Dieu ne peut pas être autre chose qu'une chose qui existe. Je veux dire, posez-vous simplement la question. Comment ça se fait que dans le monde entier, dans tous les endroits, dans toutes les cultures, on sait que tuer c'est mal? Alors vous me répondrez, oui, mais il y a les anthropophages, les gens qui sont cannibales. Tu peux couper s'il te plaît. Les gens qui sont cannibales. Mais comment ça se fait qu'ils se bouffent pas entre eux dans ce cas? Dans toutes les cultures, même les plus primitives du monde entier, on sait que tuer c'est mal. Pourquoi? Non, mais que la nécessité impose parfois la mort de quelqu'un, tu vois, c'est une chose, mais c'est pas un fonctionnement, ça ne veut pas dire que parce que la nécessité t'aura contraint à tuer quelqu'un ou parce qu'il y a une période de guerre, par exemple, ça ne veut pas dire qu'en soi, la qualification morale de l'acte est bonne. C'est ça. Elle dit plus que ça. Elle dit que t'as un reste, t'as l'œuvre de la loi, l'empreinte de la loi gravée dans ton cœur depuis la création.
D'ailleurs, le présupposé, enfin moi c'est quelque chose qui m'a toujours épaté. Le présupposé, si Dieu existe, alors pourquoi le mal? Il y a le présupposé et celui-ci. Si Dieu existe, il ne peut pas avoir le mal parce que je présuppose qu'un Dieu créateur est fondamentalement bon. Si je présuppose que Dieu existe, je présuppose qu'un Dieu créateur ne peut tolérer le mal. Parce que si Dieu existe, il doit être bon. Pourquoi? Parce que la création rend témoignage de sa gloire. Et ça, c'est super puissant. Et moi, souvent, j'ai répondu ça hier à un gars avec qui je discutais qui était super tordu. J'ai dit, mais est-ce que je l'ai pris dans son sens? J'ai dit, mais après tout, est-ce qu'un Dieu créateur, il n'aurait pas juste le droit d'être mauvais et de nous créer juste pour nous manipuler et tout?
C'est vrai.
Ouais. Mais on présuppose qu'un Dieu créateur, parce que, pourquoi? Parce que c'est cohérent entre la cause et l'effet. L'effet, on constate qu'il est ordonné, qu'il est beau, qu'il est régi, donc on présuppose que celui qui a créé est de la même nature. Il y a son empreinte.
Est-ce que c'est juste la création?
Non, oui, c'est les deux.
Les deux sont les deux indicateurs.
Ouais, c'est les deux grands indicateurs, quoi. D'accord? Et puis après, le troisième indicateur. Un troisième indicateur? C'est Jésus. La révélation particulière, donc, qui est indispensable. C'est des panneaux indicateurs, mais c'est pas Christ et l'image de Dieu. Vraiment.
Il y avait une question, il y avait d'autres questions par là, là. Tout à l'heure, je suis tombé sur une question, c'était chez toi, Nadia, c'est ça?
On m'a demandé, on a posé la question sur Dieu et cet amour, comment permettre que Dieu se faire un meurtre, sachant qu'il les a choisis à l'avance, donc Dieu est avec nous pour faire le temps. Et pourquoi il choisit immédiatement le temps, parce qu'il nous prédestine à le choisir.
La question, attends, parce que là, il y a plusieurs questions dans la question. Là. La question, c'est mourir physiquement ou enfer paradis? Donc pourquoi il aurait prédestiné les uns à l'enfer et pourquoi d'autres il les aurait prédestinés à la vie éternelle, c'est ça? Tu veux répondre à cette question?
Sachant qu'il est amour.
Sachant qu'il est amour. Alors, moi, sachant qu'il est amour, oui, Dieu est amour, ça, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est aussi juste.
Déjà, si tu as ce supposé là, tu t'auto-réfuses.
Ben oui.
Sachant que Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il permet ça? C'est dans tous les cas, tu peux dire que c'est un acte d'amour et que tu dois faire
la transformation
de son amour à son amour. Mais oui. Si tu n'as pas le sachant qu'il est amour, tu l'as c'est bon. Sachant qu'il est amour, moi je peux te répondre parce qu'il est amour. Je vais faire la force de
nous. Oui. Vas-y, Kalayan.
Il y a aussi un problème de définition de l'amour. Dieu a aussi un amour qu'on peut considérer comme sa gloire et qui est bon pour nous. Parce que du coup, le fait qu'il aime sa gloire nous invite à la célébrer. Et dans son amour aussi pour sa gloire, il faut voir que ceux qui seront en enfer, de l'avoir vécu, c'est une preuve qu'il aime ce qui est bon. Il n'y aura aucune personne en enfer qui sera bon. Dieu ne peut pas aimer ce qui n'est pas bon.
L'amour de Dieu définit sa justice, la justice de Dieu définit son amour. Le fait qu'on sache qu'il est d'un amour parfait, c'est parce que son amour est absolument, parfaitement juste, moral, éternel. En fait, le problème, c'est que quand tu commences à travailler sur les attributs de Dieu, tu touches à une chose qui nécessairement va être biaisée. Parce que le premier attribut de Dieu, c'est ce qu'on appelle sa simplicité. Tout à l'heure, Raph, il parlait des atomes. La particule la plus petite en termes de, qui ne peut pas être divisée, non pas petite en taille, mais celle qu'on ne peut plus diviser, la particule la plus indivisible qui existe, c'est Dieu. Tu ne peux pas le diviser. Dès lors, quand tu commences à séparer ses attributs, amour, justice, toutes ces choses-là, tu raisonnes d'une manière qui de toute façon ne pourra pas refléter qui est Dieu réellement. Donc dès le départ, déjà, tu es biaisé dans le raisonnement. Ensuite, tu ne peux pas dissocier l'amour de Dieu de sa justice, à cause de sa simplicité qui est le premier attribut de Dieu. Donc puisque tu ne peux pas dissocier son amour de sa justice, tu dois forcément intégrer que son amour est absolument parfait parce qu'il est juste. Par conséquent, ne peuvent pas hériter de son amour des gens injustes. Donc nécessairement, tous ceux qui sont injustes ne seront pas au bénéfice de son amour. Moi, j'argumenterais de la manière suivante. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois quand on s'est retrouvé chez Khadija. Tu te souviens, Suzanne? Le gros bins qui a sorti, c'est comment ça se fait que Dieu qui est amour permet qu'il y ait des gens qui aillent en enfer? Tu vois? Ma réponse, ça a été parce que Dieu donne aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'avoir. Dieu donne aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'avoir. Si sur cette terre et dans cette vie, ils n'ont fait que souhaiter des choses qui sont contraires à Dieu et à la volonté de Dieu, ils ont fait que le rejeter toute leur vie, Dieu leur dit, ok, tu as voulu ça toute ta vie, je te le donne, mais je te le donne éternellement. Tu ne veux pas me voir, je m'absenterai éternellement de ta vie. Parce que l'enfer, finalement, c'est quoi? L'enfer, c'est l'absence de Dieu. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Callaghan, il a parlé de grâce commune. Quelle est la première formalisation de la grâce commune que l'on connaît dans la Bible? Elle était là avant, mais quand elle devient formelle par le moyen d'une alliance, c'est où? Genèse 6, Genèse 9, quand elle est ratifiée, c'est quand ils sortent de l'arche et qu'il leur dit je ne détruirai plus la terre, je préserverai l'humanité et je maintiendrai mes saisons jusqu'au deuxième jugement qui viendra. Donc tous les gens sur cette terre, je t'ai vu, hein, tous les gens sur cette terre sont au bénéfice de cette grâce commune qui fait que, comme Callaghan l'a dit, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, mais pas seulement. Le fait que des païens, des athées, des gens qui ne croient pas du tout en Dieu peuvent expérimenter, je sais pas moi, de la patience, de la compassion, de l'amour, toutes ces choses-là, c'est aussi un bénéfice de la grâce commune. Le jour où Dieu sera sorti de leur périphérie, si je puis me permettre, ce jour-là, ils seront en enfer, ils n'auront plus du tout Dieu. Et là, ils expérimenteront ce qu'est une vie sans Dieu. Pas d'amour, pas de patience, pas de compassion, pas de sourire, pas tout ce qui fait leur quotidien, en fait. Tout le monde est au bénéfice de Dieu, dans un sens. Le paradis, au contraire, est réservé pour ceux qui ont toujours voulu et souhaité ardemment être réunis avec Dieu, réunis avec lui, et qui justement ne se satisfaisaient pas de ce monde. Donc Dieu donne aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est la preuve de son amour. Par conséquent, les gens qui vont en enfer, ils vont aussi à cause de l'amour de Dieu. Il les a aimés, faites ce que vous voulez. Bien sûr, ils n'aiment pas tout le monde de la même manière, mais ça c'est un autre débat. Oui.
Il y a aussi quelque chose que je. Un argument que je comprends pas, que je comprends si Dieu m'aime lorsqu'on parle à Job, c'est quand on touche à cette question des points impénétrables de Dieu, finalement, quand on prend la destination, il n'y a aucune personne qui prend la destination qui te dira je sais pourquoi j'ai été élu. Parce que Dieu lui-même dit que ceux qui l'ont appelé, lui seul reconnaît la raison. C'est certainement pas parce qu'il le mérite. Et je pense que l'argument de Paul, au moins, il est bon. Il leur dit, hey, calme-toi, Seigneur. Qui êtes-vous pour rentrer en contestation avec Dieu là? Alors que vous êtes vous-même déjà non seulement coupable, mais en plus dans une rébellion qui vous empêche de vous mettre en question. Et souvent, moi, je dis aux gens, mais vous êtes en train de parler de toi et de ta culpabilité, tu veux mettre Dieu au tribunal. Peut-être règle d'abord ton cas, et ensuite on pourra éventuellement discuter de Dieu.
Le point simplement, hein, même pour vous, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, je sais que c'est très difficile à accepter, simplement notez qu'une réaction quand vous êtes confronté à la souveraineté absolue de Dieu et à son choix et son dessein éternel, la réaction de rébellion, ça consiste à dire pourquoi tu as fait ça, et donc à le mettre en doute. Par contre, une réaction de soumission, c'est « Waouh, moi, merci, c'est tout ».
Tout à fait. C'est, on en revient à l'origine du péché, c'est douter de la bonté de Dieu. Adam et Ève. Ok. Et la deuxième conséquence, c'est déterminer nous ce qui est bien ou mal, ce qui aurait été un acte d'amour, comment Dieu aurait dû faire. On se place en tant que ses conseillers.
Et après, non, mais ça, moi, ce qui m'a aidé à m'humilier devant cette doctrine de l'élection que je vois par mon avis, c'est de garder mon regard sur la croix. Est-ce que Christ n'est-il pas réellement mort? Est-ce qu'il n'a pas réellement souffert pour un injuste comme moi et comme nous? Et ça, est-ce que ce n'est pas réellement de l'amour?
Merci.
Et du coup, nous allons regarder là.
Merci. C'est exactement ça.
À part si vous avez ajouté un truc, peut-être.
Non, je pourrais peut-être. Oui.
La destination,
avant de
tout. Après l'avoir décrété la chute.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Tu peux. Prédestiné, ça veut dire que c'est d'avance. Je fais simple, d'avance ta vie. Avant ta vie. On est d'accord? Mais. Si je vais jusqu'au bout, ça déroule le grand. Ça déroule. Mais je sais pas si c'est la meilleure façon de répondre et de traiter le sujet. Je pense que ça vaut le coup de le traiter à partir des Écritures. Et de regarder la, non, mais et de regarder le grand tableau. Avant la fondation du monde, il y a ce qu'on appelle, enfin, je veux le faire vraiment ça. Je suis pas quelqu'un de très simple. Alors, Dieu a décidé de créer. Ben non, Dieu a tout prévu et a tout planifié pour trois raisons, il me semble, qui nous sont révélées, qui sont claires. La première, c'est que Dieu fait tout pour sa gloire. Ce qu'il recherche, c'est sa gloire. La première raison de la croix, c'est la gloire de Dieu. La deuxième raison, c'est que la meilleure façon de bénir l'homme qu'à Dieu, c'est par son Fils qui meurt pour lui. Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Éphésiens 1, chapitre 3. Ça, tu l'apprends par cœur. Parce que Dieu tout-puissant, Dieu qui est infiniment bon, toute la bénédiction qui peut déverser sur l'homme et sur la création, il le fait par Jésus pour l'homme. Dieu ne peut pas te bénir plus qu'en offrant son Fils pour toi. Il te permet la présence de Christ, d'être dans la présence de Christ, la seigneurie de Christ sur ta vie, ce qui est la meilleure chose que tu puisse rêver à voir. Il te révèle la gloire de Dieu. Et il y a une troisième chose dans les motivations de Dieu qui nous est présentée, c'est qu'il le fait par amour. Et le fait qu'il sacrifie son propre fils pour toi, c'est sa plus grande preuve d'amour. Maintenant, la réponse que chacun des hommes, nous, on ne peut se positionner que de notre point de vue, ça nous est révélé, c'est notre responsabilité à nous de dire oui ou non, parce que la parole dit que c'est à annoncer à tous et que c'est offert pour tous au sens proposé à tous les hommes de manière intelligible, compréhensible et dans laquelle on peut répondre. Voilà.
Si je peux rajouter juste une chose là-dessus, l'élection est positive. Ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas le fatum. L'élection, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés selon sa préscience. Donc, vous voyez que les deux sont bien ensemble, etc., etc. C'est positif. Ça veut dire que son choix se porte positivement sur des personnes qu'il va sauver. Par conséquent, raisonner par l'inverse en disant, il y en a qui sont prédestinés à l'enfer, n'est pas faux, mais c'est négativement. C'est la conséquence de son choix souverain positif. Tu comprends? Dieu fait le bien en nous sauvant. Je sais que ça apparaît choquant, mais c'est, si tu veux, tu vas à un entretien d'embauche, tu es retenu. Je veux dire, t'es retenu positivement, t'es heureuse pour toi, et cette joie que tu ressens d'être pris dans ce boulot-là, enfin, si le boulot tu l'as souhaité, transcende le fait d'être triste pour les autres qui n'ont pas été pris, si tu veux. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de parler d'un job ici. Mais l'élection est positive, c'est pas la fatalité. Et ça n'annule pas la souveraineté de l'homme. Personne ne va en enfer, la responsabilité de l'homme, pardon, personne ne va en enfer à cause de la prédestination de Dieu. Tout le monde va en enfer à cause de ses propres péchés. Et ça, c'est important de le souligner. La souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme. Vas-y. Non, Dieu n'est pas égoïste. C'est ça, déjà pour commencer. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas égoïste, puisque s'il y a une personne dans cet univers et en dehors de cet univers et hors du temps qui peut se glorifier de lui-même, c'est celui qui est parfait. Si tu étais parfait, tu aurais toutes les raisons de te glorifier de toi-même. Non, il dit pas parce que c'est égoïste, il dit parce que t'as aucune raison de le faire. C'est différent. C'est différent. Mégalomaniaque. Oui. Mégalomaniaque. Mais c'est pas ça, c'est que par le fait qu'il soit parfaitement bon, et le fait qu'il soit parfait en toute chose, et aussi le fait qu'il soit trin, le fait qu'il soit trois personnes, fait qu'ils sont là, les uns les autres, à s'aimer parfaitement et à célébrer leur propre gloire parfaitement les uns les autres. Chaque personne se donne pour les deux autres dans la Trinité. Tu t'es déjà demandé pourquoi la solitude, c'est le seul mal dans la création bonne qui n'est pas la conséquence du péché. La solitude est le seul mal, comprenez, j'utilise mal comme un anthropomorphisme. La seule chose qui n'est pas la conséquence du péché et qui est constituée quelque chose de pas... que Dieu voulait compléter. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et il ne pouvait pas être seul parce que Dieu, bien qu'étant une seule substance, n'est pas seul, ils sont trin. Il y a trois personnes dans la Trinité. C'est pour ça que leur amour est parfaitement manifesté. Ils sont trois personnes. Et c'est ces trois personnes qui s'auto-célèbrent leur propre gloire de cette manière-là. Tout ça, c'est lié à la doctrine de la Trinité même. C'est insondable. Il n'y aurait pas d'amour, sinon. L'amour exige une réciprocité entre les personnes. Une ou deux questions, et après on bloque tout, parce que Clément, là, il est en train de stresser, s'endormir et se fâcher en même temps. Alors du coup, quand je vois tous ces sentiments qui se mélangent sous ses sourcils, ça me fait un peu peur, en fait. En plus, il fait du karaté, donc... comme tous les Chinois de Saint-Maur. Il n'y a pas de question, on conclut ? Ou il y a une question ? Laurent Danguevu. Les cathos. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la parole de Dieu était la tradition première. C'est-à-dire que la parole de Dieu est le fondement sur lequel leur tradition s'établit également. C'est-à-dire que leur tradition, qui est multiple, hein, comme je te l'ai détaillé hier, qui comprend la liturgie, les conciles, la papauté, l'interprétation de l'Église, le magistère, toutes ces choses-là peuvent jouir de l'infaillibilité sous certaines conditions et peuvent servir à interpréter ou à rajouter aux Écritures. Ça, c'est ce que j'ai dit hier. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils étudient, les prêtres ? C'est une bonne question, ça dépend de dans quelle obédience catholique ils ont été formés. Il y a plusieurs écoles dans le catholicisme. Vous savez que bien qu'il y ait une unité de doctrine et de façade qui soit liée au catéchisme et au pape, en dessous, vous avez quand même plusieurs subdivisions doctrinales. Donc ça dépend. Ce qui est clair, c'est que quand tu regardes les commentaires catholiques, il y a une chose qui est assez surprenante, c'est que pour un texte biblique, tu as toujours une introduction énorme sur ce qu'on appelle la patristique, c'est-à-dire l'histoire de l'interprétation du texte. Avant d'étudier le texte, ils étudient toujours d'abord l'histoire de l'interprétation du texte. Et c'est normal, dans un sens, c'est cohérent avec ce qu'ils croient. Après, il faut quand même noter une chose, c'est que dans les milieux catholiques, et notamment sous l'impulsion des mouvements un peu charismatiques, vous savez que chez les catholiques, le mouvement charismatique bat son plein, il y a une vraie redécouverte de la lecture de la Bible, et il y a pas mal de groupes bibliques qui s'organisent au sein des églises, ils se réunissent en dehors, même souvent, et ils lisent simplement la Bible entre eux, souvent avec un présupposé, bien sûr, mais souvent ils la lisent simplement, et ça c'est un vrai moyen de capitaliser. Vous avez des prêtres qui sont vraiment de plus en plus impliqués dans une redécouverte du texte biblique. Anna, elle a fait une synthèse du traité des reliques de Jean Calvin l'autre jour, et on l'a publié sur mon blog, et il y a un prêtre catholique qui s'appelle Marc de l'Épiphanie, qui est venu mettre un like sous le traité des reliques, alors que les catholiques ils en prennent mais un savon quoi dedans quoi. Donc, ils se remettent peut-être aussi en question. Il faut peut-être prier pour ça et capitaliser là-dessus. Hein. D'autres questions ? Parce que Raph, il commence à fatiguer, il s'est assis. Vous avez...
Non.
j'ai répondu, ils étudient. J'ai répondu à la question. Ils étudient. Ils étudient des commentaires par lesquels ils commencent par étudier la tradition avant les textes. Maintenant, et le catéchisme, bien sûr. Leur tradition, et ben leur catéchisme, c'est une tradition, quoi. Mais ils étudient leur magistère qui va interpréter les textes. Mais il y a un phénomène de redécouverte de la Bible. Voilà, en synthétique. D'où ça vient exactement, je vais pas trop me hasarder là-dessus parce que les développements historiques, je les connais pas, et en plus je suppose que ça doit être bien controversé comme il faut, ce truc-là. Par contre, hier il y avait cette idée de Marie, vous voyez, qui venait apaiser le fils. Clairement, le culte des saints est un moyen de mettre un levier supplémentaire d'accès jusqu'au fils ou jusqu'à Dieu, en fait. Ouais, Cal, vas-y.
Ouais. Où il y avait ce phénomène.
C'est sûr qu'il y a une influence païenne, mais moi j'ai toujours du mal à rentrer dans ces raisonnements parce que quand on refait l'histoire des cathos, nous on y vient avec notre propre présupposé aussi, quoi. C'est toujours difficile. Quand on s'intéresse à la lecture des pères de l'Église, tu te rends compte que en fonction de si t'es un protestant ou si t'es un catholique, tu vas pas lire le texte du Père de la même manière. Tout à l'heure, j'ai écrit, pour ceux qui étaient intéressés par le texte qu'on a fait sur l'Eucharistie, c'est publié depuis aujourd'hui, en fait. Hein. Et tout à l'heure, je suis tombé sur un passage de Chrysostome. Et en fait, quand tu regardes, certains, ils comprennent que Chrysostome défendait la présence du corps et du sang de Christ corporellement dans l'Eucharistie. Mais en fait, quand tu lis le texte, tu lis pas ça du tout. Et figure-toi que Jean Calvin, il a appuyé sa doctrine de la scène sur Chrysostome. Donc, si tu veux, des fois, tu arrives devant le texte et en fonction du présupposé qui t'anime, tu vas l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, le culte des saints, c'est en lien avec les développements païens. De toute façon, plein de choses de l'Église catholique, ou même que nous, on fait aujourd'hui, sont liées à la relation avec les païens. Pourquoi tu fêtes Noël le 25 décembre? Pourquoi les orthodoxes, ils fêtent Pâques? Quand est-ce que vous fêtez Pâques, vous? Pourquoi ils ne le fêtent pas le 14 Nisan, mais ils le fêtent sur un solstice? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? À cause d'une vieille querelle qui s'appelle la querelle des cartos des ciments en 180 après Jésus-Christ, tu vois. Et toutes ces choses-là sont des développements historiques qui font que souvent ça a été le lien entre le christianisme qui commençait à devenir une religion d'État et qui l'est devenu vraiment en 351 et l'influence des cultes païens qu'on cherchait à christianiser, en fait. Mais il y a clairement un phénomène de mythologie, comme l'a dit Callaghan. On est bon? Il est presque 23h, on va peut-être aller se coucher maintenant. On va demander à Raph de prier pour conclure.